Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous arrivons à l'étude numéro 5. Et le titre sera « L'école des fils en vue de l'adoption ». Je répète, « L'école des fils en vue de l'adoption ». Maintenant, il y a évidemment, avec la nouvelle vague des femmes qui pensent que, je parle de chrétiennes, qui pensent qu'ils sont mis de côté, pas du tout. Il ne faut pas mal interpréter, s'il vous plaît. Donc, une remarque importante pour nos sœurs, je veux la donner maintenant. Voyez-vous, quand la Bible parle des fils, eh bien, en ce temps-là, les femmes étaient comprises avec. Ça se comprenait automatiquement. Donc, les fils, les filles, sont y compris. On peut aussi dire les disciples, c'est encore mieux, les disciples femmes et hommes. Étant donné que, selon des statistiques, même anciennes, il y a plus de femmes, beaucoup plus de femmes, surtout aujourd'hui, qui acceptent le salut que des hommes. L'homme est souvent trop orgueilleux pour s'humilier et reconnaître qu'il est pécheur et perdu. Il faut de l'humilité pour ça, c'est pas facile. Donc, nous commençons notre étude. Il est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et de ce fait co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. En effet, la création attend avec un ardent désir que les fils de Dieu, et j'ajoute les femmes, soient manifestés, et elles espèrent qu'elles aussi sera délivrée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et non seulement elle, mais nous qui avons reçu les prémices de l'Esprit, nous soupirons nous aussi en nous-mêmes, attendant l'adoption, attendant la rédemption de notre corps, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conforme à l'image de son fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères et sœurs. Romains, chapitre 8, versets 14, 17, 19, 21, 23 et 29. Et notez aussi, chers amis, Éphésiens, chapitre 1, versets 5 et 6, où il est dit: nous ayons prédestiné dans son amour à devenir ses fils, et j'ajoute ses filles, d'adoption, tout cela par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la grâce magnifique qu'il nous a gratuitement accordée en son Fils bien-aimé. Éphésiens, chapitre 1, versets 5 et 6. Chers amis, écoutez attentivement ceci. Il est dit, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de ses verges tous ceux qu'il reconnaît pour étant ses enfants. Si vous avez à endurer le châtiment, eh bien Dieu vous traite comme des fils, comme des filles, car quel est le fils ou la fille que son père ne châtie pas. Et puisque nos pères, selon la chair, nous sont châtiés, et que néanmoins nous avons eu du respect pour eux, ne serons-nous pas à bien plus forte raison soumis au Père des esprits pour avoir la vie? Il est vrai que tout châtiment semble au premier abord un sujet de tristesse et non pas de joie, évidemment. Mais ensuite, il produit un fruit de justice et de paix pour tous ceux qui ont été ainsi exercés. Notez s'il vous plaît, Hébreux, j'ai dit Hébreux dans le Nouveau Testament, chapitre 1, versets 1 et 2, versets 3, versets 5 à 6 et versets 14 et 15. Ensuite, toujours Hébreux, chapitre 5, versets 8 à 14, chapitre 12, versets 5 à 7 et les versets 9 et 11. Chers amis, l'étude que nous faisons de la maison spirituelle nous amène à considérer maintenant la question de l'école des fils et des filles. Je dis les filles, les femmes, parce que vous savez que aujourd'hui le féminisme est à la page et je ne voudrais pas que mes sœurs comprennent mal la parole de Dieu. Ce serait dommage. Donc, je répète, l'étude que nous faisons de la maison spirituelle, elle nous amène à considérer maintenant la question de l'école des fils et des filles en vue de leur adoption. Et j'espère à m'engager sur le terrain de difficultés ou de différences techniques dans l'emploi des termes, parce que l'on a fait si souvent des erreurs. Mais vous me permettrez à cet égard une brève explication qui pourrait être nécessaire pour quelques-uns d'entre nous. Voyez-vous, lorsque nous approchons les choses de Dieu, nous comprenons que nous avons à modifier quelques-unes de nos idées humaines. Et parmi les nombreuses choses pour lesquelles il en est ainsi, il y a cette question de l'adoption. Je dis bien cette question de l'adoption. Voyez-vous, la conception que Dieu a de l'adoption est entièrement différente de la nôtre. Notre idée, c'est que par l'adoption, quelqu'un est introduit de l'extérieur dans la famille. Mais telle n'est pas la pensée de Dieu au sujet de l'adoption. Le mot « adoption » signifie littéralement l'établissement des fils. Et nous aurons remarqué, si nous les avons lus avec attention, que l'adoption se trouve à la fin des choses dans les passages des Saintes Écritures que nous venons de citer. L'adoption est donc quelque chose à atteindre. Nous qui avons reçu l'Esprit Saint, nous attendons en soupirant notre adoption. Nous avons été prédestinés à l'adoption des fils. Ça, c'est quelque chose que nous attendons selon la parole de Dieu. Il n'est donc pas simplement question d'être introduit dans la famille, mais c'est le résultat de quelque chose qui se passe en nous depuis que nous sommes entrés dans la famille. C'est donc le résultat de l'action de Dieu en nous qui appartenons à sa famille, et nous savons fort bien que des termes différents sont employés à cet égard dans la Sainte Parole de Dieu. La version de Darby, c'est une version excellente, mais pour beaucoup aujourd'hui de chrétiens, elle paraît un peu trop ancienne, dépassée. Mais c'est une des versions les plus fidèles, comme la King James pour les anglophones. Donc la version de Darby a une valeur particulière à ce sujet. La distinction y est clairement marquée. En tant qu'enfant de Dieu, nous le sommes sur la base de notre naissance, tandis que nous ne sommes que potentiellement des fils sur la base de cette naissance. Nous serons actuellement des fils et des filles selon la pensée divine exprimée par ce mot adoption après avoir été un certain temps dans la famille et lorsque Dieu aura agi en nous. L'état de fils dans les sens ou dans le sens divin, cela est quelque chose qui doit être développé en nous. Être un enfant, c'est être un membre de la famille. Le terme « enfant » est une appellation distincte, mais l'état de fils est quelque chose que l'on reçoit. Oui, quelque chose qui est donné, quelque chose qui est accordé. C'est donc quelque chose de plus que la naissance. Le Saint-Esprit, par le moyen de l'apôtre, met donc en lumière l'état de fils, c'est-à-dire qu'il donne connaissance de la qualité de fils dans sa signification la plus pleine. Il nous dit que nous sommes avant tout, nous avons reçu le Saint-Esprit, alors nous sommes sur la base de fils, mais que l'état de fils n'est pas encore réalisé pour nous dans toute sa signification et dans toute sa valeur. C'est donc quelque chose à quoi nous devons tendre, en quoi nous devons avancer, car la création tout entière attend et elle soupire en attendant la consommation littérale de ce qui est potentiellement en nous, puisque nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'elle attend la manifestation des fils de Dieu. Tout cela lorsque ce jour viendra, eh bien la création, elle sera libérée de son esclavage de corruption. Nous avons donc, chers amis, dans les épîtres aux Romains et aux Galates, une lumière au sujet de l'état de fils. Vous pouvez relire Romains et les Galates. Le fondement de l'état de fils est clairement établi, mais il ne nous est rien dit qui justifierait la déclaration définitive que nous avons atteint tout ce que signifie la qualité de fils. Dans ce passage même, écoutez bien, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint de Dieu sont fils de Dieu. Or, il n'est pas dit que tous les chrétiens soient un fils de Dieu. Non, non, non. Car tout chrétien est-il vraiment conduit par l'Esprit Saint de Dieu? Et vous voyez, c'est une position spirituelle qui, dans la pensée de Dieu, est liée à l'état de fils véritable. Il est donc évident que par notre naissance comme enfant de Dieu, dans laquelle est implicite l'état de fils avec l'adoption en perspective, nous avons l'héritage en vue, car chacun de ceux qui sont nés dans cette famille de Dieu est potentiellement un héritier. Et si nous sommes enfants, nous sommes donc héritiers, mais nous savons bien que nous pouvons être mineurs tout en étant héritiers. Et cette pensée ressort dans l'épître aux Galates. Tandis que nous sommes nés héritiers, si nous sommes encore mineurs, alors nous ne pouvons recevoir l'héritage avant d'avoir atteint notre majorité. Et c'est cela, l'adoption, c'est d'atteindre la maturité. C'est arriver à la maturité, à l'état d'homme et de femme fait. Voyez-vous l'état parfait de fils, homme et femme? Cela est une question corporative qui rencontre une grande opposition. Nous sommes ainsi amenés en face de cette question de l'adoption à laquelle nous arrivons par l'état de fils développé en nous à l'école de Dieu. Et je pense devoir dire ici que bien qu'elle soit une chose individuelle et personnelle et doive l'être dans son application, cette question de l'adoption est une avec celle de l'élection et que c'est l'Église qui est en vue ici et non pas le chrétien individuel. C'est donc l'Église qui est le corps élu et c'est l'Église qui est le Fils élu. Je veux dire que l'état de fils demande le corps de Christ. Il est lié à cette vérité du corps de Christ et c'est dans nos relations en Christ comme co-héritiers que nous nous développons, que nous arrivons à la plénitude et que nous arrivons au but voulu de Dieu. C'est une prière fervente contre cette œuvre de l'adversaire qui aveugle et qui voile et qui arrête la lumière quant à la nature de l'Église, quant à sa vocation et à sa destinée. Vous serez d'accord avec moi pour reconnaître qu'il y a comparativement peu de chrétiens, si nous pensons à tous les chrétiens qui sont aujourd'hui dans le monde tout entier, oui, il y en a comparativement peu qui aient vraiment la lumière et qui aient vraiment la révélation du corps de Christ qui représente, écoutez bien, qui représente tous ceux qui sont sauvés et rachetés. Oui, ce 8e chapitre de l'Épître aux Romains est un chapitre formidable à bien des égards. Mais ce grand résumé est immense. Voyez-vous, la création assujettie à la vanité et l'attend en soupirant, et comme en travail, la manifestation des fils de Dieu qui doit la délivrer de l'esclavage de la corruption, puis en vue de cela, il nous est montré l'instrument élu, c'est-à-dire ceux qu'il a connus d'avance. Oui, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. C'est l'Église, c'est le corps de Jésus-Christ qui est introduit ici. Et c'est une chose d'une importance immense. Il est donc nécessaire de voir cela avant de pouvoir apprécier cette éducation des fils en vue de l'adoption. Nous sommes donc dans une école en vue d'une destinée immense. Nous sommes dans une école dont le but est quelque chose d'une signification et d'une importance si grande que nous pouvons à peine l'imaginer. Et c'est pourquoi nous ne devons pas regarder à la légère la discipline à laquelle le Seigneur soumet ses enfants. Oui, car là encore, nos idées humaines ne doivent pas pénétrer dans le royaume divin lorsque nous employons ce mot de châtiment. Chers amis, quelle pauvre traduction en somme. Elle rend bien mal la pensée originale. C'est simplement, voyez-vous, écoutez bien, c'est simplement l'éducation de l'enfant. Ce chapitre des Hébreux, il était pour moi autrefois une bête noire dans ma Bible lorsque j'en entendais la lecture et tout mon être se révoltait contre cela. Je suppose que c'est tout à fait naturel, mais si seulement nous avions eu des vrais termes au lieu de ce mot un peu déplorable de châtiment, de coup de bâton, de coup de fouet. Voyez-vous, tout l'aspect effrayant en aurait été enlevé. Oui, mon fils, ne méprise donc pas l'éducation du Seigneur pour son enfant. Ça, c'est beaucoup plus beau à entendre. C'est plus doux. Il y a quelque chose de plus doux en cela. L'Éternel fait l'éducation de celui, de celle qu'il aime. Oui, il élève son enfant. Et nous arrivons donc directement à cette question de l'éducation des enfants. Et nous remarquons que dans ce cinquième chapitre de l'Épître aux Hébreux, nous avons ces caractères de l'école mentionnés par des termes différents. Tout fils qu'il est, Jésus a appris l'obéissance. Tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça, c'est un texte d'école. Vous qui devriez être depuis longtemps des maîtres, c'est un autre texte d'école. Celui qui ne se nourrit que de lait ne saurait comprendre, c'est à nouveau un texte d'école. Ceux qui ont les sens exercés par l'usage, c'est ce qui se fait à l'école. Nous nous trouvons ici en plein dans l'école des fils, hommes et femmes. Chers amis, considérons maintenant de manière pratique la différence qui existe entre les mineurs spirituellement parlant qui sont appelés enfants dans le Nouveau Testament et les fils. La différence consiste simplement dans le fait que les mineurs ou enfants reçoivent du dehors tout ce dont ils ont besoin et qu'ils vivent du fruit d'un travail auquel ils n'ont pris aucune part. Ils vont à l'église le dimanche matin ou dans une cathédrale et ils reçoivent tout simplement en étant assis tranquillement, les bras croisés, ou peut-être en s'endormant légèrement. Enfin, ça c'est moi qui le dis. Voilà donc la différence. Un enfant, c'est celui qui vit du produit du travail des autres, du pasteur, de l'évangéliste, du prêtre, sans y avoir jamais eu aucune part lui-même. Tout a été fait et préparé pour lui. Tout lui arrive comme venant de l'extérieur, sans que rien n'ait jamais été fait par l'enfant lui-même. Je pense que c'est là la marque essentielle d'un enfant. Mais un fils, dans le sens spirituel des Saintes Écritures, c'est celui en qui se forme la racine des choses, qui sort progressivement du domaine où tout est fait pour lui et où il n'a aucune responsabilité pour arriver à la place où il est exercé, où il exerce au sujet des choses, où il devient compétent en lui-même et qu'il ne dépend plus du tout de ce que les autres font ou qu'ils disent. Tout ne lui arrive donc plus du dehors. Il y a un sens dans lequel les choses se font en lui et où il les fait dans sa propre expérience par l'exercice de ses propres sens. Telle est donc, spirituellement parlant, la différence essentielle qui existe entre un enfant et un fils. Et je répète, homme et femme. Nous avons donc ici, dans cet ordre de choses, un terme très utile, le sens exercé. ou l'essence exercée. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes considérés comme ayant des sens spirituels et l'objet de l'action de Dieu à notre égard, dans notre éducation d'enfant qu'il poursuit, c'est d'amener ces sens à un exercice, de sorte que par cet exercice, nous pouvons acquérir de l'expérience et quelque chose d'essentiel est l'expérience et quelle valeur elle a. Ce sont donc ceux qui ont de l'expérience qui comptent. Et l'expérience vient par l'exercice des sens. Ça ne vient pas automatiquement. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne passent jamais de l'enfant spirituel à l'état de fils. Et pourquoi cela ? Eh bien, nous le voyons dans le fait que Dieu ne fait pas de nous des fils par un acte souverain et selon sa propre détermination. Pas du tout. Nous avons une place en cela. Et la responsabilité, comme nous le remarquons dans tous ces passages des Saintes Écritures, elle est laissée aux croyants eux-mêmes. Et il est dit très clairement, en termes très nets, que la responsabilité repose sur eux. La répétition si fréquente de ces paroles, rappelant la faillite d'Israël dans le désert, elle montre qu'à cet égard, eh bien, la responsabilité repose sur les enfants de Dieu. La Bible dit, par exemple, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme il arriva au jour de la révolte. » Notez Hébreux, chapitre 3, verset 15. Ces paroles ont généralement servi de texte à une prédication évangélique qui a été adressée aux non-croyants. Mais voyez-vous, dans le Nouveau Testament, elles ne sont jamais employées de cette manière-là. Cet emploi peut être légitime, pourquoi pas, mais il n'en a jamais été fait usage dans le Nouveau Testament. Ces paroles ont toujours été adressées uniquement à des chrétiens, c'est-à-dire à des croyants nés de nouveau et rachetés comme un avertissement. Et pour leur faire comprendre cette question d'une responsabilité, de quelque chose qui dépend de nous. Donc, une responsabilité de quelque chose qui dépend de nous. Chers amis, il faut pour devenir des fils et des filles une intention ferme et résolue. Et cela signifie qu'il y a quelque chose de fondamental à l'état de fils en vue de l'adoption. C'est une intention ferme et résolue de marcher avec Dieu. Il doit y avoir en nous le sens d'un but. Ce facteur et ce trait d'un but, la volonté ferme de marcher avec Dieu. Je répète, c'est la volonté ferme de vouloir marcher avec Dieu. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Oui, nous pouvons dire que le Nouveau Testament est un appel pressant et continuel à cela. C'est un appel à être caractérisé par un but spirituel, par une intention résolue d'avancer. Et c'est sur cette base-là que Dieu agit. Mais ce que nous venons de dire, cela nous amène à autre chose. C'est cette intention ferme et décidée de notre cœur qui attire sur nous toutes les difficultés. Peut-être cela sera-t-il si nous, en reconnaissant toute la signification, une des choses les plus utiles qui puissent nous être dites. Donc, les enfants de Dieu, qui ne sont pas caractérisés par cet esprit de décision et qui se contentent uniquement de rester des petits-enfants toute leur vie, se montrent satisfaits, pourquoi pas, de ce que tout soit fait pour eux, de ce que tout leur soit servi, sans qu'ils aient jamais aucun exercice par eux-mêmes, et jouissant habituellement d'une vie assez calme et très tranquille. Ils sont donc parfaitement satisfaits, et ils sont contents de leur vie, et ne désirent pas autre chose. Mais qu'un homme soit marqué par ce sens sérieux d'un but à atteindre, eh bien, il ne se passera pas un long terme avant qu'il ne soit dans les difficultés. Si nous voulons avancer, eh bien, il nous faut sortir de la chambre des enfants pour entrer à l'école, et la nature de cette école est très dure. Cela signifie donc simplement que Dieu va nous faire entrer, voire même nous précipiter dans les situations les plus difficiles. Une situation n'est difficile que si nous ne pouvons pas y faire face. Si nous trouvons que la situation dépasse notre mesure de force, notre mesure de sagesse, notre mesure de connaissance, alors nous sommes alors en difficulté. Et c'est précisément ce que le Seigneur fait à l'égard de ceux qui veulent marcher avec lui. Il les place dans des situations difficiles, car son seul objet est de les amener à exercer leur sens spirituel, afin qu'ils acquièrent de l'expérience, qu'ils aient la racine des choses en eux-mêmes. Et c'est ainsi que toute notre ligne d'habitude douce et agréable va s'effondrer tout d'un coup et que nous allons nous trouver dans un domaine où nous nous sentons perdus, où nous ne pouvons plus suffire. Et nous avions donc eu l'habitude, nous avons toujours eu l'habitude de poser des questions et d'en recevoir des réponses. Mais maintenant, personne ne peut plus répondre à nos questions. Aucune réponse ne nous vient plus de l'extérieur. On pourrait naturellement nous dire certaines choses qui nous aideraient jusqu'à un certain point. Et nous pourrons recevoir une certaine mesure d'aide de la part de ceux qui ont de l'expérience. Mais Dieu va nous maintenir devant le fait que la situation doit devenir nôtre, nôtre par l'expérience et en vérité. Peu importe donc ce que disent les autres, nous savons parfaitement que nous devons expérimenter la chose par nous-mêmes, que personne ne peut nous tirer de nos difficultés. Nous revenons donc constamment à notre vieille coutume enfantine, et nous allons à droite et à gauche pour que d'autres essayent de résoudre nos problèmes, mais il nous faut sortir de cette habitude, car elle ne nous réussira plus. Et en réalité, tout au fond de nous-mêmes, nous savons bien que cela ne nous réussira pas. Nous n'arrivons pas à ce que nous cherchons. Nous savons désormais que ce dont nous avons besoin, c'est non pas qu'on nous dise quelque chose, mais que quelque chose se fasse en nous. Nous avons donc besoin d'être amenés nous-mêmes à une position et non pas à une solution mentale. Et si nous continuons à vouloir trouver des solutions intellectuelles à nos problèmes spirituels, c'est que nous sommes encore dans la chambre des enfants. Si nous voulons réellement arriver au but tout entier et voulu de Dieu, eh bien nous avons à connaître le Seigneur pour nous-mêmes, et cela d'une manière intérieure. Il est possible que pour cela, le Seigneur ait à suspendre toute aide extérieure et qu'ils doivent empêcher tous les autres de venir à notre secours pour nous amener à nous rejeter entièrement sur lui-même, afin de le prouver, de le connaître et d'être profondément exercé dans notre propre esprit. Cet exercice élargit nos capacités et une capacité grandie, cela signifie une mesure plus grande du Seigneur. Et voilà donc l'école des fils et des filles en vue de leur adoption. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra ma doctrine. » Saint Jean, chapitre 7, verset 17. C'est là, simplement la manière dont les évangiles expriment sous forme de germe cette grande vérité de l'état de fils, à savoir que c'est par l'expérience que nous connaissons et non par la recherche uniquement intellectuelle, ni par les renseignements venus de l'extérieur, Internet et compagnie. Nous n'arrivons à rien par le raisonnement, car ce que la logique peut construire, la logique peut aussi le renverser. Non, Dieu agit à notre égard, comme avec qui ? Avec qui ? Mais avec des étudiants, au sens académique, peut-être ça ? Eh bien non. Comme avec des fils. Dieu agit avec nous comme avec des fils, non pas comme avec des étudiants académiques. Et oui, citons-nous donc notre qualité de fils. Et où se trouve notre qualité de fils? Dieu est le Père, il est le Père de nos esprits. Ce sont donc nos esprits qui sont le siège de notre qualité de fils. Et toute l'action de Dieu en nous, elle se fait par notre esprit. C'est donc une question de croissance spirituelle. C'est l'élargissement spirituel. C'est la croissance dans l'état de fils en vue de l'adoption. Oh oui, voyez-vous, tout est une question d'expérience. Je me demande combien il y en a d'autres d'entre nous qui seraient satisfaits si nos parents avaient toujours fait toutes choses pour nous, s'ils nous avaient toujours préservés de toute peine, de tout ennui, de tout effort, de toute nécessité d'agir ou de trouver le moyen de faire les choses par nous-mêmes. Je suis tout à fait certain qu'aucun d'entre nous, nous ne penserions que nos parents auraient agi dans ce cas-là uniquement par amour. Et je pense que là, nous aurions des divergences. Oui, il est dit, me voici. Tout le monde sait que je ne suis rien et que je ne sers à rien. Je l'ai dit aussi pour moi autrefois et je le sais moi-même. Mais le Seigneur, il fait l'éducation de tous ceux qu'il aime. Il fait l'éducation de vous, mon cher frère, et de toi, ma chère sœur. Et regardons en avant pour voir tout ce qui est devant nous. Oui, il y a donc un trône en vue. Il y a un gouvernement en vue. Je ne sais pas comment s'en tirent les hommes quant au gouvernement de ce monde. Il me semble qu'ils peuvent très aisément passer d'un département dans l'autre, dans les affaires de l'État. Oh, je ne dis pas que pour tous ce soit ainsi. Or, le Seigneur n'a pas d'emploi officiel dans la grande administration de son royaume. Il doit avoir ceux en lesquels ont été forgées les qualités requises. Et c'est à cela que est appelée l'Église, c'est-à-dire le corps de Christ, de ceux qui sont sauvés et rachetés. Et cela doit être forgé en nous. Ce n'est point un jeu d'enfant. C'est une chose qui demande que les enfants soient arrivés à la maturité. S'il n'en était pas ainsi, je ne comprendrais pas l'enseignement du Nouveau Testament au sujet de notre marche vers la pleine croissance, et je ne comprendrais pas non plus l'action du Seigneur à l'égard de son Église. Si tout ce qui importe, c'est que nous soyons nés de nouveau, que nous ayons le pardon de nos péchés et que nous allions au ciel, pourquoi aurions-nous tout cet enseignement dans la Bible et dans notre expérience? Ce n'est certainement pas en vue de quelque chose sur cette terre. Non, non, non. Que le Seigneur, chers amis, nous fasse donc la grâce d'endurer le châtiment. C'est-à-dire de faire notre éducation comme des fils, afin qu'il ait cette compagnie de siens qui sont à lui, à laquelle il pourra confier la grande responsabilité qui est sa volonté pour eux. Chers amis, nous allons donc prier maintenant ensemble, si vous le voulez bien. Seigneur Jésus, nous venons à toi de tout notre cœur pour que tu sauves nos âmes. Nous méritons le châtiment de nos péchés, mais nous croyons que déjà tu as porté cette punition sur la croix au calvaire où tu fus crucifié. Oui, c'est nous qui devrions être crucifiés, non pas toi. Merci d'avoir pris notre place et nous avoir délivrés de notre condamnation. Maintenant, je te prie de nous donner l'assurance du pardon de ces péchés à tous ceux, à celui qui se repent. Fais-le devenir et fais-la devenir une nouvelle créature, comme le dit ta sainte parole. Et je te remercie parce que je sais que tu m'entends et que tu réponds à ma prière. Amen. Et chers amis, souvenez-vous que Dieu vous aime. Dieu vous aime de tout son cœur. Et il est donc de mon devoir de vous aimer également de tout mon cœur. Et là où vous vous trouvez maintenant, tout près ou éloigné, peut-être sur un bateau, va savoir. Eh bien, je vous enlace tous et je vous embrasse et je vous dis oui, soyez bénis par et en Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, je voudrais essayer de vous mettre un ou deux chants d'un très lointain passé, figurez-vous 1968. Et cela a perdu beaucoup de sa qualité. Parfois, il y a des ratés terribles, et je m'en excuse d'avance, parce que ça a été fait sur des appareils à bande, le Revox. Ensuite, j'ai transmis cela sur des cassettes, et maintenant sur des CD. Mais là aussi, c'est bientôt terminé. Mais essayons quand même, parce que il y a l'Esprit Saint qui est dans ces chants. Vous pouvez me croire. Essayons. Essayons.
He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.
Thank you. Mrs. Watson from Canada, Merva and Merla, who will sing to us. And their first number tonight is I Will Sing.
Most disgusted when they all Glory. Glory to Jesus. To Jesus. Good times all day on Sunday.
But I know he's more.